Et on retrouve à l'instant Olivier Beauregard. J'ai comme l'impression qu'il y avait les yeux rivés sur le Super Bowl en fin de semaine et qu'on en parlera dans les prochains instants. Olivier, bonjour!
T'as bien raison. Mais moi, dire en affaire, Sébastien, c'était pas un bon spectacle.
Non. Ça, puis je pense que tout le monde le dit. Il n'y a personne qui... J'ai pas entendu le contraire bien souvent, en tout cas, dans la dernière semaine.
Non, exact. T'sais, une victoire écrasante comme ça, il n'y a comme pas vraiment eu de suspense pendant le match. Les Eagles ont complètement anéanti l'attaque des Chiefs de Kansas City. C'était décevant. Je sais que la majorité des personnes, puis j'en parlais à Sheila la semaine dernière, mais tu sais, la majorité des personnes souhaitaient une défaite des Chiefs de Kansas City. Mais dans un match comme ça, dans un match, le dernier match de la saison, le match pour le Saint Graal du football, tu sais, t'aimerais ça avoir un spectacle dans le meilleur des mondes. Et ça a été tout le contraire. Encore aujourd'hui, je pense que du côté des Chiefs, on est à analyser qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là. Travis Kelce a dit quelque chose de vraiment intéressant après la rencontre lorsque les journalistes lui ont dit « Écoute, Travis, comment t'expliques la défaite d'aujourd'hui? » Puis il a dit « Ah, il dit, c'est dur à expliquer, c'est dommage. Il dit, c'est juste plate qu'on ait, on ait joué notre pire match de la saison aujourd'hui. » Il n'y a pas totalement tort, tu me diras, mais il y a une chose, par exemple, qui me pétille, puis c'est peut-être un peu ce que j'aurais aimé entendre de la part des Chiefs, c'est que malgré leur fiche qui est exceptionnelle cette saison, ça a toujours été ça tout au long de l'année. On a toujours senti que les Chiefs avaient besoin de revenir dans le match à un certain moment. Tu sais, je vous l'ai dit souvent, c'est une équipe de quatrième quart, une équipe qui, à la toute fin du match, là, va faire basculer le match de leur côté. Ça a été ça toute l'année. Puis là, t'arrives au Super Bowl, t'affrontes une équipe comme les Eagles qui avait le vent dans les voiles, puis qu'eux autres, ils ont frappé tôt, ils ont frappé fort, puis à un moment donné, t'as beau vouloir essayer de revenir, puis on l'a senti la remonter un petit peu au quatrième quart des Chiefs, mais il était trop tard, là. Je veux dire, l'écart était trop grand, et ils n'ont pas été en mesure de revenir dans ce match-là. Donc, je pense que là, les Chiefs ont un peu joué de chance cette saison, c'est-à-dire qu'ils ont remporté plus souvent ces matchs-là où ils n'étaient pas dans le match tout au long des quatre quarts. Mais au match ultime, ça leur a coûté la rencontre. Chapeau à Jalen Hurts, le corps arrière des Eagles, que moi, je vous avais dit la semaine dernière, c'est pas un passeur. Si les Eagles sont capables de freiner Saquon Barkley, le porteur de ballon, ben pas les Eagles, mais si les Chiefs étaient capables de le freiner, ben les Eagles seraient dans le pétrin. Puis écoute, je pense qu'il y a eu 50 verges par la course seulement du côté de Barkley. Et Jalen Hurts a lancé des ballons, puis ça a fonctionné. Donc, je ne sais pas si c'est Andy Reid, l'entraîneur-chef des Chiefs, qui a manqué un peu son plan de match. Est-ce qu'on ne l'a pas bien exécuté également du côté de la défensive? C'est dur à expliquer tout ça, Sébastien, mais chose certaine, on a passé à côté du bateau parce que les Eagles avaient ce match-là dès le premier quart, puis ils n'ont jamais regardé derrière par la suite. Donc, chapeau aux Eagles de Philadelphie. Un beau championnat, c'est une façon de se reprendre également, parce que rappelle-toi, la dernière fois que les Eagles étaient allés au Super Bowl, ça fait pas si longtemps, et ils avaient perdu contre les Chiefs. Donc, c'est une belle vengeance, une vengeance qui est très douce pour Philadelphie. Et je pense que du côté des Chiefs, on a peut-être mis un petit trait là à cette dynastie-là, qui a été une très, très grande dynastie. Mais je pense qu'on a mis un petit trait parce que là, ça va être le temps de regarder vers l'avenir. Je parle pas de Pat Mahomes. Je pense qu'il reste énormément de bon football. Mais je veux dire, un gars comme Travis Kelce, dont son avenir est incertain, est-ce qu'il y a des changements également qu'on doit faire du côté de la ligne à l'attaque? Tu sais, ça n'a pas été facile cette saison. Voyons voir ce que les Chiefs vont faire pendant la saison morte. C'est dommage parce que il y avait l'opportunité d'écrire le livre d'histoire de la NFL parce qu'en collant un troisième championnat consécutif, ben il devenait la première équipe à le réaliser dans toute l'histoire de la NFL. Ça aurait été quand même exceptionnel. Ça n'a pas été le cas, mais ça n'enlève rien à ce que cette équipe-là a réussi à faire au courant des cinq dernières années.
On va quand même souhaiter un meilleur spectacle pour le Super Bowl l'année prochaine.
Ah, absolument, absolument. Mais ça va faire en sorte qu'on va manger moins peut-être un petit peu.
Sinon, changeons de sport, parlons de cette compétition des quatre nations.
Oui, absolument, ça a commencé hier, le Canada qui affrontait la Suède hier du côté du Centre Bell à Montréal. C'est un événement qui est en collaboration avec la Ligue nationale de hockey parce que c'est les meilleurs joueurs de chaque pays qui s'affrontent. Écoute, chaque pays, là, je me retiens parce que c'est seulement quatre nations. Là. On parle du Canada, des États-Unis, de la Suède et de la Finlande. Hier, c'était justement la levée de rideau de cette compétition-là. Honnêtement, c'est du jeu relevé, là. C'est le fun à regarder en tabarouette. Je ne sais pas, Sébastien, si tu as eu la chance de jeter un œil.
Non, pas encore. Il va falloir que j'aille faire un peu de rattrapage pour voir ce qui s'est passé et ce qui s'en vient aussi. Là.
Ben, c'est que c'est tellement, tellement relevé comme compétition. C'est pas compliqué. T'as l'impression d'assister au match 7 de la finale de la Coupe Stanley.
OK. Dès le départ.
On avait des doutes là-dessus, là, parce qu'on se disait, est-ce que les joueurs vont vouloir jouer à fond la caisse, malgré le fait que les séries éliminatoires sont à nos portes dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on veut éviter des blessures? Est-ce qu'on va garder une certaine réserve? Je te dirais qu'en première période, c'est comme si le Canada, jouait son hockey, puis que la Suède avait pas trop compris le principe. Sauf que ça a changé complètement en deuxième période. On a le droit de jeu physique, du jeu rapide, du jeu très, très compétitif. Et ça a amené ce match-là en prolongation. Le Canada qui l'a finalement emporté en prolongation. Mais ça a été tout un match de hockey. Moi, je trouve ça exceptionnel de voir un événement comme ça. Là, il y a plusieurs questions concernant le Canada. Tu sais, depuis le début, la question, c'est sur les gardiens de but. Jordan Binnington, hier, qui était d'office pour le Canada, je pense qu'il a accordé deux mauvais buts. Là. Tu sais, soyons honnêtes, là, c'était pas de très grands buts de l'équipe de la Suède. Et je pense que c'est ça le point d'interrogation, parce que là, avec une victoire en prolongation, tu vas pas chercher le maximum de points. Je pense que le Canada est allé en chercher deux hier sur une possibilité de quatre, si je me trompe pas. Là. Mais reste que le Canada l'a emporté, mais ça fait en sorte qu'on se pose des questions. C'était de la difficulté contre une équipe comme la Suède. Tu l'emportes en tir, pas en tir de barrage, mais en prolongation. Qu'est-ce que tu vas faire contre les États-Unis qui sont largement favoris dans ce championnat-là? En raison justement du gardien de but Connor Hellebuyck, qui est probablement le meilleur gardien de la planète en ce moment. Donc, ça a été très, très intéressant. Ce soir, la Finlande va affronter justement les États-Unis au Centre Bell de Montréal. Ça va être intéressant également de suivre un peu comment ces formations-là sont montées. Est-ce qu'on va avoir le droit à la même compétition relevée ce soir? Je pense que ça va être un très bon match, mais tu sais, on va être honnête, là, le match qu'on va suivre, c'est samedi au Centre Bell. Canada, États-Unis. Je pense que tout le monde a hâte de voir Crosby contre Jack Eichel, Austin Matthews. Tu sais, d'un côté, t'as Crosby, MacKinnon, McDavid, Makar, puis de l'autre côté, t'as Matthews, Eichel, les frères Tkachuk. Je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça samedi du côté du Centre Bell de Montréal. Il y a un petit point d'interrogation, Sébastien, dans cette compétition-là. Puis j'ai écouté les commentaires de Gary Bettman en point de presse hier. On lui a demandé, est-ce que c'est une compétition qui va revenir? Parce que la dernière fois qu'il y a eu une compétition internationale qui avait été organisée de pair avec la Ligue nationale, écoute, ça remonte à presque 10 ans. On parle de 2016, là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais la Coupe du monde de hockey qui s'était tenue justement à Montréal et Toronto. C'était très bon, mais on a attendu 10 ans avant de ramener un événement sportif comme ça. Les joueurs en demandent, Sébastien. C'est pas compliqué.
Ce que tu disais en début là, d'intervention sur ce sujet-là, que les joueurs ont joué, ils sont pas retenus parce que les séries s'en viennent, parce qu'ils ont peur d'être blessés. Ils ont joué, ça donne l'impression qu'ils trouvent ça le fun de sortir de leurs pantoufles puis de vivre autre chose en cours de saison. Là.
Absolument. Puis tu sais, je pense que ça a un plus grand cachet qu'un simple match des étoiles où à chaque année, on se dit c'est quoi la pertinence de tenir ça quand les joueurs jouent à moitié, quand c'est plus un show de cirque que d'autres choses. Là, tu as une compétition internationale, tu représentes ton pays, tu veux gagner ce couple-là, tu veux l'ajouter justement à ton palmarès. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Et Gary Bettman a été questionné là-dessus en se demandant, est-ce qu'on va attendre un autre 10 ans avant de ramener une Coupe des Quatre Nations? Et Gary Bettman a dit non. Il dit l'objectif en ce moment, là, c'est qu'en 2026, ça va être les Jeux olympiques. Ça veut dire que les joueurs de la Ligue nationale vont retourner aux Jeux olympiques. Et par la suite, ben là, on va enchaîner Coupe des Quatre Nations. Après ça, les Jeux olympiques, etc., etc. Alors, si c'est le cas, on aurait une compétition des Quatre Nations aux 2 ans environ, là, ce qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que aussi, ça va créer une certaine compétition interne. Puis ça va faire en sorte que les partisans de hockey de ce monde-là qui ne suivaient plus du tout le match des étoiles, vont peut-être regagner un intérêt pour cette pause-là dans la saison, parce qu'on a le droit à du hockey très relevé, comme je disais hier. C'était exceptionnel de voir les Connor McDavid, MacKinnon et Crosby ensemble. Là, je veux dire, tu sais, tu vois pas ça souvent. C'est les meilleurs au monde. Tu as la chance de voir ça. Puis je trouve que l'annonce de Bettman de dire que on pourrait éventuellement retourner aux Jeux olympiques, en tout cas, ça semblait être confirmé hier. Ben ça, c'est une autre excellente nouvelle pour la Ligue nationale de hockey, mais surtout pour les amateurs.
Et parlons de Jean Pascal qui n'a pas le goût d'arrêter. C'est un peu ça, là. Il veut poursuivre la carrière.
41 ans, puis il pense encore à son prochain combat, tellement que Jean Pascal, en ce moment, est en attente de la décision de Badou Jack, à savoir s'il va affronter ou non Ryan Rosinski, parce que c'est pas compliqué, là. La dernière fois qu'il a combattu Jean Pascal, il a remporté la ceinture, et là, lui, ce qu'il veut, c'est offrir la chance à quelqu'un de l'affronter. Il y a des promoteurs qui sont derrière ce combat-là. On veut ramener Jean-Pascal dans un ring. J'ai hâte de voir, honnêtement. J'ai hâte de voir, Sébastien, à quel point... Tu sais, je te parlais de pertinence avec le hockey tout à l'heure. Ben, c'est un peu le même principe dans le cas de Jean-Pascal. C'est quoi la pertinence de le ramener dans un ring à 41 ans? Je ne sais pas à quel point ce gars-là a besoin de se battre. Est-ce que c'est une question monétaire? Est-ce que c'est une question simplement parce qu'il n'est pas capable d'arrêter? Je ne sais pas. Mais Jean-Pascal, c'est plus l'ombre de ce qu'il était il y a 10-15 ans passés. Et là, on veut le ramener pour se battre pour un champion, pour une ceinture du championnat du monde, dont il est détenteur. Tu sais, je pense que quand tu as cette ceinture-là, tu as peut-être le choix d'arrêter aussi. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est pas... en tout cas, pour moi, c'est pas compliqué. Là, Jean-Pascal aurait eu le beau jeu de s'arrêter maintenant. Alors, là, il veut se battre. Voyons voir qui sera son prochain combattant contre qui il va disputer la ceinture. Mais une chose qui est certaine, moi, il y a un certain Adonis Stevenson que je me rappelle, qui a combattu en fin de carrière, puis tout le monde se rappelle de son dernier combat où on pensait que le gars était tout simplement mort là, dans le ring. Là. Il y a eu des séquelles par la suite. Ce gars-là a plus jamais reboxé. Est-ce que Jean-Pascal... est conscient de ça. J'espère que oui, j'espère que son entourage est conscient de ça parce que je vois pas c'est quoi l'intérêt de ramener ce gars-là dans un ring. À quel point ça va attirer des gens, pas certain non plus que ça va en attirer beaucoup. Mais bref, ce sera à suivre. Combat intéressant si Jean-Pascal revient en termes d'histoire qu'il y a derrière ça, parce qu'un gars qui se bat à 41 ans, tu vois pas ça tous les jours. Mais en même temps, je me dis... je sais pas c'est quoi la pertinence de ramener Jean-Pascal, mais écoute, dans la boxe, hein, Sébastien, on aura tout vu. Il n'y a pas plus tard que quelques mois passés, Mike Tyson sautait dans le ring à 50 quelques années. Alors, pourquoi pas Jean-Pascal à 41 ans? On suivra ça de très près lorsqu'il y aura des annonces qui seront faites du côté de son groupe de promoteurs.
Olivier Beauregard, un grand merci pour ton coup d'œil sur l'actualité sportive cette semaine, puis rendez-vous jeudi prochain.
Merci, bye-bye.